Alors bonjour, bonsoir, Ursula Meyer. Donc vous êtes cadrée et vous êtes la réalisatrice de L'Enfant d'en haut qui sortira sur nos écrans le 18 avril. Alors peut-être pour commencer cette interview, je voulais vous demander de quelle envie ce film est-il né?
Oui, donc en fait, il y a eu plusieurs choses qui se sont court-circuitées en même temps. Donc au départ, c'est vrai qu'il y avait le désir de retravailler avec Essimothée Klein, qui était l'enfant de Home. Il avait 7 ans et demi et il jouait le fils d'Isabelle Huppert dans ce film. Et c'est vrai qu'avec Kessy, on avait énormément travaillé pour Home. Il y avait eu tout un travail, mais pas forcément sur le scénario de Home, mais vraiment d'essayer de l'amener à pouvoir dire un texte sans réciter, enfin, et de garder sa spontanéité tout en lui amenant des outils, mais de façon très empirique. C'est pas, j'avais aucune méthode, mais on a cherché comme ça les deux pendant plusieurs mois et ça a été un travail assez formidable. Donc il y a eu vraiment ce désir au fond d'aller plus loin encore avec lui, de lui écrire un rôle principal. Donc ça, c'était une chose. Et puis c'était aussi le désir de tourner dans cette région en fait en Suisse, en Valais, qui en fait m'a toujours frappé de par sa géographie, c'est-à-dire qu'il y a une plaine industrielle comme ça, avec cette tour HLM plantée au milieu de nulle part, et puis il y a des industries, et il suffit de suivre les fumées de ces usines qui se mélangent aux nuages, et au-dessus il y a des stations UP, voilà, des stations de ski. Et je trouvais que dans un regard comme ça, vertical, le bas, le haut, je trouve que ça a témoigné beaucoup du monde d'aujourd'hui. Enfin, ça racontait des choses sur le haut, sur le bas, avec peu d'éléments cinématographiques. Enfin, dans son économie des décors, cette verticalité, quelque chose qui me plaisait. Et c'est vrai que le petit garçon Simon, qui a 12 ans, voilà, il vit dans une plaine industrielle et il emprunte une petite téléphérique locale qui l'amène dans cette station, dans une station UP. Et en fait, le film va être vraiment rythmé par cette téléphérique, ces allers-retours en téléphérique qui, au fond, vont donner vraiment le battement de cœur du film. Enfin, vraiment lui donner le rythme au film, qui est une sorte d'élévateur, mais physique, mais aussi social, élévateur voilà, à tout point de vue, quoi. Et puis après, c'est vrai, j'ai commencé à écrire l'histoire. Et je sais pas, au bout de quelques mois d'écriture, tout à coup, il y a un souvenir qui m'est revenu en tête. J'avais complètement oublié, donc c'était dans un coin de ma tête. Et en fait, je me suis souvenu que ce garçon, au fond, je l'ai pas du tout imaginé, mais qu'il existait. Et c'est vrai que voilà, moi, j'ai grandi au pied du Jura, en France, et aller au ski, c'était quelque chose de très banal. En fait, il y a une station de ski à 5 minutes, donc j'allais très souvent au ski. Et puis un jour, les gens qui nous accompagnaient nous ont désigné comme ça un enfant du doigt en disant « Regardez ce garçon, il avait 12 ans, à peu près l'âge de Simon, moi aussi j'avais cet âge-là. Regardez, c'est un petit voleur, méfiez-vous de lui, faites attention à vos affaires et tout ça. » Et effectivement, voilà, il volait les porte-monnaies, du matériel de ski et tout ça. Et il était toujours tout seul. Bon, lui, contrairement au film, il skiait, il adorait skier, mais il skiait extrêmement mal. Et voilà, il a été interdit des restaurants d'altitude et il était définitivement interdit d'ailleurs de monter en station de ski. Donc je pense que ce garçon m'a intrigué d'une part parce que il appartenait pas au milieu social, parce que aller au ski, faut être quand même d'un certain milieu social, ça coûte quand même cher. Bon là c'était le Jura, c'était pas les Alpes, mais quand même ça coûte de l'argent. Et lui, c'était une sorte de petit voleur du haut, comme ça, une sorte de racaille en haut, un paria au fond. Qui n'appartenait pas à ce monde-là et qui, voilà, ça m'a troublé. Je pense en tant qu'enfant, ce garçon qui était dans un monde qui n'était pas destiné. En plus, il y a quelque chose de très anonyme au ski, on est cagoulé, masqué. Donc, j'ai jamais vu le regard de ce gamin, mais je pense que mon imaginaire a beaucoup travaillé. Et je l'ai mis dans un coin de ma tête et je m'en souvenais absolument pas. J'ai eu l'idée du film et vraiment le souvenir est venu pendant l'écriture, quoi.
C'est une société qui est extrêmement divisée que vous dépeignez. Donc vous l'avez dit, en bas la plaine industrielle, en haut la station de ski très huppée. Est-ce que vous pensez vraiment que le monde d'aujourd'hui lui est à ce point-là mis dans des cases, à ce point-là divisé?
Non, c'est-à-dire que le décor déjà raconte effectivement le haut. Il y a le soleil, il y a la neige blanche, les beaux paysages. En dessous, c'est souvent en dessous de la couche de nuages, il n'y a plus de neige, c'est plutôt de la boue à l'ombre. Donc je trouve que d'un point de vue de réalisme, de décor, déjà ça racontait ça. Enfin, je veux dire, ça raconte quand même deux mondes. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire, au contraire, c'est au contraire de ne pas tomber dans le cliché et de pas justement mettre dans des cases. C'est-à-dire que le haut, j'ai évité le côté carte postale. On est dans le travail de ce. Enfin, on suit Simon dans son travail de petit voleur, qui est une petite fourmi au travail comme ça. Donc, on le suit dans les coulisses de cette station de ski, parce que je filme aussi le bas du haut. Hein. Je filme pas que le haut. C'est-à-dire, je filme les travailleurs qui sont les saisonniers de cette industrie touristique qu'on appelle l'or blanc d'ailleurs. Et donc, en fait, on pénètre une station de ski avec un angle très particulier qu'on a rarement vu au cinéma. C'est vrai que je ne filme pas le grandiose du paysage. Justement, j'évite le cliché de ça. Et pareil pour le bas, c'est-à-dire j'ai évité de filmer le côté misérabilis ou j'avais pas envie de tomber dans quelque chose de glauque ou de voilà. Et au contraire, de donner une certaine même la tour HLM dans laquelle il habite, de lui donner une certaine élégance, une certaine forme, la façon dont c'est filmé, qui se confronte comme ça à la montagne. Et d'éviter justement les écueils de ces deux mondes. Enfin, c'est tellement, il y a déjà une évidence comme ça que moi, la mise en scène, j'ai essayé au contraire de rétablir un peu les choses et de, parce que le film est quand même ailleurs. Le film parle quand même de l'histoire de ce garçon qui est en manque terrible d'amour. Et c'est pas non plus, même si il y a un contexte social qui est présent. Enfin, ils vivent dans une certaine précarité, lui et sa sœur. Néanmoins, le film n'est pas un film purement social. Voilà, il parle aussi de ce et surtout de ce gamin qui en manque terrible d'amour et qui comble ce manque par cette activité débordante, par l'argent, enfin qui comble comme il peut ce manque d'amour. Mais j'ai vraiment essayé d'éviter quand même l'écueil de le monde des riches, le monde des pauvres, enfin parce que d'une part c'est quelque chose qui existe dans la topographie, je veux dire en haut c'est des stations de ski avec des gens qui font 4 000 km pour venir là, qui ne descendent pas en bas, et en bas il y a des gens à 5 minutes. Qui ne sont jamais montés en haut parce qu'ils n'ont juste pas l'argent de monter en haut. Et ça, je vous assure que ça existe. J'ai commencé à faire des projections du film et des gens enfin, sont venus me témoigner de leur enfance ou qui m'ont dit, mais nous, on a habité exactement là où vous avez filmé et mon père était ouvrier, je n'ai jamais eu l'argent pour pouvoir monter là-haut, je ne suis jamais monté là-haut. Donc voilà, il y a une réalité. En même temps, je trouve qu'il n'y avait pas besoin d'en faire des tonnes à la mise en scène et au contraire de pas être dans le jugement et de pas. Enfin, j'essaie de pas juger que ce soit en haut ou en bas, quoi.
Il y a quand même une esthétique qui est assez réaliste et vos décors s'inscrivent dans une topographie. Mais en même temps, il y a des éléments qui vont hors de la réalité, comme l'idée qu'il n'y ait pas de services sociaux, il n'y ait pas de police. C'est aussi un peu une fable, un peu un conte, ce film, finalement.
Oui, c'est vrai qu'il y a il y a une réalité sociale, néanmoins, il y a, le conte est là. Enfin, le conte, la fable est toujours présente dans le film. Effectivement, il n'y a pas de services sociaux, il n'y a pas de police. Les personnages font un peu leurs propres lois, leurs propres règles. D'ailleurs, Simon se fait attraper. Et le chef cuisinier, qui est joué par Jean-François Stévenin, le prend et le jette dans la benne à ordures, dans la télécabine à ordures, et lui dit les petites ordures avec les ordures. Donc c'est. En plus, c'est assez réaliste, c'est-à-dire que ce type de personnage un peu bourru comme ça, parce que c'est un monde assez dur quand même, ces coulisses des stations de ski, je veux dire, ça rigole pas, c'est du business sur quelques mois, ils doivent être hyper rentables, et donc ça rigole pas, ils n'ont même pas le temps, enfin, je veux dire, d'appeler la police, et plutôt genre, on va faire notre propre loi, et c'est tout à fait réaliste, voilà. Et c'est pareil, le personnage de Louise, donc de sa sœur, c'est un personnage en colère, on va comprendre pourquoi, une révélation dans le film que je ne vais pas révéler, mais on va comprendre, enfin tout s'éclaire en fait au moment de cette révélation, et c'est un personnage en colère, vraiment en colère, contre cette société, contre les patrons, enfin qui a enchaîné les boulots de merde, comme elle dit, et au fond, c'est pas le genre de personnage qui va aller frapper aux services sociaux, qui va aller dire bonjour, j'ai besoin d'aide, enfin c'est vraiment pas le genre, et donc voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a dû avoir les services sociaux, qui a dû être accompagné à un moment donné. Mais je pense qu'aujourd'hui, elle est même plus à ce stade-là. Enfin, ils préfèrent se débrouiller eux-mêmes en vivant sur cette bête qui est cette station de ski, quoi. Donc, à la fois, j'avais pas envie qu'il y ait les services sociaux, mais j'ai essayé de leur trouver une. Enfin, les personnages ne sont pas le genre à aller aussi demander de l'aide. Louise a trop d'orgueil pour ça.
Juste pour en revenir au décor, il y a quelque chose aussi qui est frappant, c'est que finalement ils sont assez abstraits. Enfin, ça ressemble à n'importe quelle station de ski, à n'importe quelle tour HLM. C'est une forme d'extraction d'un milieu social. Ça rejoint un peu ce que vous avez dit sur l'envie de pas faire que du cinéma social et réel.
Oui, c'est-à-dire que les décors, moi, ce que j'aime, c'est pouvoir les transposer, quoi. C'est-à-dire, oui, c'est une tour, mais en même temps, c'est juste une tour plantée au milieu de nulle part. C'est pas une tour avec d'autres tours et qui, tout à coup, on se dit, ah oui, c'est là. Ça devient presque, c'est presque extrait du monde. C'est des décors presque. Il y a la tour, il y a les champs qu'on traverse, les pylônes, cette petite téléphérie qui amène à un autre monde, la station de ski. y a une épure des décors, c'est-à-dire que je trouve ce qu'on montre pas, les autres lieux que je ne montre pas, c'est tout aussi important que ce qu'on... Enfin, je trouve qu'au cinéma, ce qu'on montre pas est tout aussi important que ce qu'on montre, c'est-à-dire même le passé des personnages, le hors-champ, les autres lieux. Louise, on la suit pas quand elle part, on reste avec ce gamin. Et c'est vrai que les décors, du fait d'avoir cette concision et cette radicalité dans le choix des décors, ça amène... Comment dire, ça, y a une économie cinématographique qui renforce, je trouve, cette verticalité. Voilà. Parce que je ne montre pas aussi, et dans le choix des décors, dans le fait de transposer les décors. C'est à la fois de ne pas tout montrer et d'être assez radical et concis, quoi.
Ce que vous travaillez beaucoup aussi, c'est le passage entre les deux, à la fois avec donc ce téléphérique dont vous avez parlé, et à la fois l'endroit où les casiers où Simon met ses affaires de ville, qui est un peu son. Enfin, l'endroit où il enlève son costume du personnage qu'il joue. Pourquoi vous avez tellement soigné l'idée d'un lien entre ces deux mondes?
Oui, c'est vrai que Louise, c'est un personnage qui fuit, qui appartient vraiment à mon film précédent. Home, c'est vraiment la route, elle part, elle revient par la route, elle part par la route. Et puis, j'aimais bien qu'au fond, le croisement entre cette horizontalité, qui est vraiment mon film précédent, et la verticalité, qui est le film qu'est l'enfant d'en haut, au fond, cette intersection, comme vous le dites, c'est le casier de Simon, c'est là où il change. J'aimais bien que ce soit le lieu où il se retrouve d'ailleurs. Et aussi ce câble tendu entre le haut et le bas, qui est vraiment, qui crée toute la tension du film. Vraiment, vraiment au sens littéral et même physique. Et c'est vrai que c'est dans cette télécabine, au fond, que Simon se sent le mieux. Il est ni en haut, ni en bas. C'est presque chez lui, en fait, cette télécabine. C'est là où, d'ailleurs, c'est là où il compte son argent. C'est là où il s'endort. C'est là où il mange ses sandwichs. C'est là où il enlève ses chaussures de ski et qu'il soulage les pieds. Enfin, c'est l'endroit où il se sent bien, quoi. C'est ni en haut, ni en bas. C'est dans ce no man's land, entre.
Quel est le genre de relation qui unit Simon et Louise? Un rapport très fort à l'argent, il y a une quête d'amour désespérée.
Oui, je crois que c'est surtout un. Je crois que tous les deux sont pleins d'amour, mais n'ont pas les outils, n'ont pas les codes, n'arrivent pas à se le transmettre, quoi. Donc, voilà, quand il y en a un qui essaye de s'en sortir, l'autre va le couler. Enfin, ils sont dans un rapport comme ça d'amour-haine constant. Et puis, c'est vrai, comme disait d'ailleurs le comédien, c'est lui le premier qui m'a dit, mais en fait, je suis comme son père, quoi. Je dis, mais ouais, t'es comme son père, t'es comme son frère, t'aimerais juste être autre chose. Et c'est vrai qu'ils sont. Lui joue à l'adulte en même temps. Par moments, j'aimais bien rappeler qu'au fond, c'est un enfant. On le sent dans ce petit corps. Par moments, il est torse nu. On sent toute la fragilité de ce garçon. On rappelle juste au spectateur et à lui-même que c'est voilà, que c'est un enfant et que c'est pas un adulte et que c'est un enfant du bas et pas un enfant du haut, quoi. Enfin, voilà. Mais ils sont dans des rapports. Ils ont un mal fou à se dire qu'ils ont besoin l'un de l'autre et qu'ils s'aiment, quoi. Voilà, il faut attendre la dernière image du film pour qu'il y ait une preuve d'amour que Simon recherche tout le long du film, d'ailleurs, quoi. Parce que ce qui tend le film, quand même, c'est l'abandon de Simon, quoi. Enfin, c'est ça qui, on se dit, un jour, elle va pas revenir, quoi.
Est-ce que vous avez travaillé sur cette opposition? Enfin, on a toujours l'impression que Simon, lui, joue à l'homme, il a des postures très très viriles, alors que oui, c'est un petit corps tout fragile, alors que Louise, elle est plus dans la minauderie un peu, la bouderie enfantine. Vous avez vraiment essayé de créer une opposition qui ne corresponde pas finalement à l'âge des acteurs?
Oui, d'ailleurs, Léa Seydoux qui joue la sœur, c'est vrai qu'à partir du moment où on a trouvé le fait qu'elle ait quelque chose de très enfantin et au fond qu'elle soit presque la fille de Simon, enfin, je crois que ça l'a aidé à jouer, mais néanmoins, enfin, on avait pleinement conscience que c'était pas ça la nature de leur relation. Et ça sous-tend quand même, même si elle a quelque chose d'assez enfant, néanmoins, parfois il y a des regards ou des choses où on se rend compte que c'est faux, enfin qu'elle a elle-même conscience que c'est faux, qu'elle se trompe, enfin ils sont dans un mensonge elle paye le prix aujourd'hui, quoi, vraiment, avec toute la violence qu'il peut y avoir, quoi. Et donc c'est un personnage qui préfère fuir, elle fuit tout le temps par cette route comme ça, elle préfère fuir que d'affronter la réalité. Son mensonge devient presque insupportable à l'âge où à Simon, parce que il sort de l'enfance, mais c'est pas encore un adolescent, c'est un moment comme ça de no man's land de l'âge. Il va bientôt être un adolescent, il va avoir des questions, il va avoir des demandes, et elle est pas disposée, enfin elle préfère fuir que affronter cette situation, en fait.
Pourtant, vous jugez pas du tout ces deux personnages, que ce soit à la fois Louise dans sa fuite ou Simon dans ses petits vols. Pourquoi pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de porter un regard neutre, voire aimant sur ces deux personnages?
Ben, c'est vrai que c'est un vrai choix parce que c'est tellement différent. Enfin, quand on apprend la nature de leur relation, c'est vrai que c'est d'une grande violence et que j'avais pas envie qu'on juge cette jeune fille, quoi. Et ça, c'est extrêmement dur parce que sur papier, comme ça, quand on lit le scénario, des fois, même Léa, elle me disait, mais elle est dure. Enfin, même pour Léa, ça a été assez difficile de trouver l'humanité de ce personnage. Et moi, je lui ai montré plein de films, plein de documentaires. Enfin, voilà. Et c'est vrai que je l'ai nourrie vraiment jusqu'à ce qu'il y ait un déclic où tout à coup, elle a vraiment porté le personnage. Et voilà, parce que, comme dit Jean Renoir, tout le monde a ses raisons, quoi. Et donc, quand on apprend cette révélation, il y a beaucoup de choses qui s'éclairent et on comprend beaucoup de choses, quoi. Chacun fait avec les moyens du bord, chacun fait comme il peut. Et je trouve que si on commence à juger ces personnages, enfin, je trouve que c'est terrible, quoi.
Il y a aussi, vous le dites, la présence de la violence qui est toujours en bas. Elle est plutôt intériorisée, elle est plutôt dans les paroles et dans les regards que les deux échangent, alors qu'en haut, elle peut être plus matérialisée, notamment quand Simon se fait prendre par un client où il se fait tabasser. Comment vous avez réussi à mettre cette violence qui est un peu un arrière-plan au film et qui pourtant le nourrit très profondément?
Oula, c'est une question. Non, c'est vrai qu'il y a une violence, de toute façon, effectivement, il y a une violence. Bah, il y a une violence sociale, même si le film n'est pas ancré complètement dans. Enfin, pour moi, c'est pas un film purement social du tout, mais il y a un contexte social. Et cette violence sociale, je pense qu'elle se ressent. C'est-à-dire que, par exemple, ce monde des stations de ski, pour moi, ça reste peut-être un des derniers bastions qui repose sur la confiance. C'est vrai que vous allez au ski, déjà, il faut le passeport, c'est-à-dire qu'il faut cet abonnement qui coûte très cher pour monter là-haut, hein, bah, un peu proche des dieux. Et on est entre nous, on est entre gens d'un certain milieu social. Il n'y a pas de paria, il n'y a pas d'intrus, quoi. Je veux dire, on laisse ses skis devant le restaurant. Une paire de skis, aujourd'hui, ça coûte le prix d'un e-book, hein, je veux dire. Donc, c'est comme si vous aviez des milliers d'e-books comme ça plantés dans la neige. Et il suffit de se servir, quoi. Voilà. Et en fait, Simon, qu'est-ce qu'il fait? Il trahit cette confiance. Et quand il la trahit, en fait, donc il passe pour un bourgeois, donc, enfin un enfant d'un certain milieu social, au fond il va le payer très cher, quoi, parce que ça ne se fait pas. Voilà, ça ne se fait pas, ça repose sur la confiance, quoi. Donc c'est vrai que ça passe très mal, hein, voilà. Mais parce qu'en même temps c'est tellement simple de voler, enfin, encore une fois, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a une violence qui est, alors une fois, faut pas révéler la chose, mais qui est une violence qui est déjà à l'origine, quoi, qui est une violence de sa naissance à lui, enfin, qui est un gosse pas désiré, qui est une. Oui, il y a une telle violence, je pense que ce gamin, au fond, il joue un rôle en bas, mais il joue un rôle en haut. En fait, il joue des rôles partout, au point où il ne sait même plus, qui il est, quoi. Enfin, c'est-à-dire, à partir du moment où en bas, il joue un mauvais rôle, eh ben, pourquoi pas s'inventer un beau rôle en haut, enfin, une vie qui n'existe pas, une vie fantasmée. Enfin, il voit cette femme, qui est une riche touriste anglaise, jouée par Gillian Anderson, donc agent Scully, de X-Files. Et tout à coup, bah, il s'invente un rôle devant elle, lui dit que ses parents sont hôteliers, que voilà, qu'il a des parents aimants. Enfin, il s'invente toute une vie pour pouvoir supporter au fond sa vie en bas, qui est beaucoup plus dure. Enfin, où, ce rôle qui est beaucoup plus difficile à porter, quoi. Mais il y a une violence, effectivement, il y a une violence sous-jacente, mais la violence, elle est déjà, je dirais, à sa propre naissance, quoi.
Justement, elle représente quoi, elle, cette femme qui jouait par Gillian Anderson?
Bah, pour moi, c'est vraiment c'est le fantasme de la mère. Enfin, c'est-à-dire qu'il voit en cette femme, on se demande même si elle existe. Hein, je veux dire, elle est complètement fantasmée. C'est la mère idéale, belle, qui sort tout droit des contes de fées, comme ça, et aimante avec ses enfants, attentionnée. Et d'ailleurs, à un moment donné, il s'invite à leur table pour manger quelques frites et à la fin, il a goûté un moment de famille comme ça et à la fin il veut les inviter parce que d'une part il croit qu'il faut payer pour goûter ce genre de moment de bonheur et puis il s'invente, voilà, c'est en même temps il a ce rôle toujours adulte alors que voilà, elle le regarde un peu, elle est un peu perplexe face à cet enfant qui tout à coup veut les inviter à manger alors qu'il les connaît à peine, quoi. Mais c'est vrai qu'elle représente tout ce que Simon n'a pas, au fond.
Quel a été votre travail avec les deux interprètes principaux?
Alors c'est vrai qu'avec Kessie, ça a été, enfin comme je l'ai dit au début, ça a été un travail énorme, et surtout sur mon premier film. C'est-à-dire que c'était vraiment, j'ai pas essayé de travailler que sur Home, j'ai vraiment travaillé de façon plus générale. Et donc il y a eu un très gros travail sur l'enfant d'en haut, mais de façon comme avec un comédien professionnel, vraiment sur l'enjeu des scènes, qu'est-ce qui joue, toute la complexité de la relation avec Louise, vraiment avec. Encore une fois, qu'ici, enfin, qui est vraiment d'une intelligence extraordinaire, et vraiment, c'est lui qui me dit, mais au fond, je suis comme son père. Enfin, je suis, voilà, il a vraiment très bien compris le personnage. Et puis, par contre, toute la gestuelle a été beaucoup plus difficile. Voilà, parce que c'est vrai qu'un enfant, il est beaucoup plus, comment dire, il est plus maladroit, moins précis, pas très rapide, et ça. Tout ce qui est manipulation, comme c'est un voleur professionnel, quand même. Il doit aller très vite, il doit être précis, vif. Et Casey, voilà, c'est quelque chose qui était beaucoup plus difficile pour lui. Donc étonnamment, ce qui paraissait le plus dur n'a pas été forcément le plus dur. Enfin, voilà. Par exemple, la première scène dans les toilettes, hein, où il check son matériel qu'il a volé, qu'il jette et tout ça. Voilà, et Simon, enfin, Casey était maladroit, enfin pas assez rapide, donc fallait vraiment que je lui dise plus vite, plus précis, donc cette scène on l'a répétée peut-être 50 fois, enfin ça a été pour lui c'était un enfer. Et en plus après dans les conditions de tournage, il y a les chaussures de ski, il a 3 couches de vêtements, il faut tourner dans des toilettes, enfin donc fallait d'autant plus qu'en préparation, en répétition, il soit très rapide. C'est les choses qu'on a le plus répétées, je dirais. C'est pas les scènes, voilà, parce que j'évite de trop répéter pour que quelque chose se passe sur le tournage, quoi, justement que. Parce que si vous répétez puis qu'il y a une chose extraordinaire. Pour moi, c'est trop tard. Enfin, faut l'avoir sur le plateau, quoi. Donc, mais par contre, tout ce qui est gestuel a été beaucoup, beaucoup répété. Et puis avec Léa, bah, ça a été beaucoup de discussions. D'une part, je lui ai montré beaucoup de films aussi. Je lui ai montré Vanda de Barbara Loden. Je lui ai montré La Salamande d'Alain Tanner. Je lui ai montré Cent toits niçois de Agnès Varda. C'est-à-dire ces personnages féminins comme ça, très forts, très abîmés par la vie aussi, et qui s'en sortent comme ils peuvent. Et beaucoup de documentaires aussi. Par rapport à ces jeunes filles, et voilà, et beaucoup de discussions et beaucoup de travail sur le personnage. Et après, avec Léa, ce qui était vraiment super, c'est qu'elle s'est beaucoup investie aussi dans le costume, dans la représentation de ce personnage, vraiment. Et ça a été vraiment extraordinaire. Et puis, vraiment, un travail aussi sur table, sur l'enjeu de chaque scène, qu'est-ce qui se joue, qui gagne la scène, enfin, des choses très. Très concrète, quoi, de vraiment de qu'est-ce qui se joue dans la scène. Avec Kessy, on a fait ça ensemble.
Est-ce que vous avez l'impression un peu d'avoir employé Léa Seydoux un peu à contre-emploi, elle qui est toujours, enfin qui est souvent magnifiée dans les films où elle apparaît, là au contraire, vous la descendez en quelque sorte un peu dans la vulgarité, elle porte pas du tout le même genre d'habit que dans ses précédents films. C'est quelque chose qui était conscient chez vous ou c'est fortuit?
Non, c'est vrai que Léa, j'ai eu la chance de pas la voir dans d'autres films avant de la caster, en fait. Enfin, quand j'ai fait un casting, une séance de casting avec Casey, ou qui a duré 3-4 heures, mais j'ai fait ça avec quelques comédiennes. C'est-à-dire que le casting, pour moi, c'était vraiment. C'était déjà du travail, quoi. C'était pas juste caster, c'était voir comment ça se passe avec Casey, donc l'autre acteur. Et c'est vrai qu'elle était souvent filmée comme un objet de désir, comme une espèce de beauté, comme ça. Et j'aimais bien, en fait, voilà, c'est-à-dire, ce qui était assez beau, c'est qu'au fond, moi, le personnage, je ne l'avais pas forcément imaginé comme ça. Et en rencontrant Léa, au fond, j'ai trouvé ça plus intéressant encore, ce que elle amenait, que le personnage comme je l'avais imaginé. Parfois, ça arrive, vous faites des castings, vous cherchez ce que vous avez en tête. Des fois, c'est formidable. Et puis, des fois, tout à coup, on peut se dire, tiens, je n'avais pas vu le personnage comme ça, et c'est encore plus intéressant. Et c'est ce qui s'est passé avec Léa Seydoux. C'est-à-dire que j'ai fait un casting, et pour quelques secondes, de moments comme ça assez extraordinaires, tout à coup, ça m'a éclairci des choses sur le personnage. Et ça m'a vraiment permis, avec Léa, de décoller d'un film purement social. C'est-à-dire qu'elle ne porte pas une espèce de fatalité sociale, comme ça. On ne sait pas d'où vient ce personnage. Elle a quelque chose d'assez atemporel. Et peut-être qu'elle vient d'un milieu populaire, peut-être ses parents étaient profs, on n'en sait rien, c'est pas dit dans le film. Et ça, j'aimais bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce poids d'une fatalité sociale. Et je trouve qu'elle amène le film justement ailleurs. Elle fait décoller du social, et justement, elle amène plus vers le conte. Voilà, elle permet ça, Léa. Et ça m'a vraiment intéressée. Voilà. Et c'est vrai que je lui disais, mais tu sais, tu vas. ça va être physique, hein, ça, tu vas bouffer de la boue. Et elle était vraiment prête à ça, elle me disait ouais. Et vraiment, le travail sur les costumes, ça a été vraiment génial. Hein. Et elle s'est vraiment investie, mais pleinement. Et la façon de marcher, la façon de se... Par exemple, la première apparition, c'est toujours important, je trouve, au cinéma, les premières apparitions des personnages. Et là, je lui ai dit, mais tu déboules, tu fais le doigt d'honneur, tu l'insultes, le gars en bagnole, et tu marches. Et Simon, il a de la peine à te suivre, comme ça, à t'emboîter le pas. Et au fond, ça raconte tout le film de cette fille qui essaie de se décoller de ce gamin qui est dans ses pattes tout le temps. Et voilà, en une scène, j'avais envie qu'au fond, il y ait toute leur relation, quoi. Et même après, elle pisse contre un sapin. En même temps, elle choisit ce moment-là pour lui annoncer qu'elle a perdu son travail et que voilà, que bah, l'argent va pas rentrer. Et en même temps, il se retourne, il la regarde et elle dit, tu regardes. Donc en fait, elle choisit un moment pour lui annoncer une chose, voilà, terrible quand même. Elle choisit le moment où elle pisse. Enfin bon, bref. Et je crois que Léa, ça lui a plu justement d'aller vers autre chose Ouais, de montrer autre chose de ce qu'elle peut faire, quoi, je crois.
Le thème de la famille que vous choisissez de mettre au centre de votre film, donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou c'est venu avec l'envie de raconter l'histoire de ce garçon?
Non, je crois que c'est-à-dire que c'était au départ, c'était vraiment le garçon, et après, évidemment, qui dit enfant dit famille, quoi. Donc, enfin, voilà, c'est venu comme ça, et donc cette relation trouble entre les deux, quoi, un peu, enfin, complexe et trouble. Mais c'est vrai que voilà, c'est une famille dysfonctionnelle, comme dans mon précédent film Home. Et en même temps, ce qui me plaît, c'est-à-dire que c'est à chaque fois, c'est une famille qui s'invente des codes, un mode de fonctionnement, qui vit un peu en marge, mais en ayant trouvé une sorte d'équilibre, un peu fou, mais c'est un équilibre. Dans Home, c'est pareil. Au fond, ils vivent au bord de cette autoroute désaffectée, l'autoroute va ouvrir et voilà, ils vont fusionner encore plus. Mais au départ, il y avait déjà une tendance fusionnelle, il y a déjà une grande névrose dans cette famille, mais qui n'est pas forcément visible. Elle va se concrétiser au moment où l'autoroute va ouvrir. Et on se dit, mais ils sont fous, quoi. Enfin, ils sont en train de... Et là, il y a quelque chose de ça, c'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement dès le départ, un équilibre étrange, mais néanmoins, ça tient. Ça tient et le réel va finir toujours par les rattraper. Voilà, comme dans Home, quoi. Le réel les rattrape.
Dans ce sens-là, vous pensez que votre film est pessimiste ou pas particulièrement?
Oui, c'est-à-dire qu'en même temps, quand le réel les rattrape, enfin, ils vivent quand même une sorte d'utopie, quand même. On peut vivre autrement avec ouais, ses propres codes, ses propres lois, sans hiérarchie aucune. Et tout à coup, le réel les oblige au fond à rentrer dans le rang, enfin à se normaliser entre guillemets, ce qui est à la fois ce qui est bien et en même temps terrible, quoi. Voilà, de rentrer dans la norme. Voilà, Louise Amoé va rentrer dans le monde et va reprendre un travail. Voilà, parce qu'à un moment donné, elle va travailler pour Simon, elle va devenir son employée. Enfin, ils essayent vraiment de vivre autrement et au bout d'un moment, elle va se remettre dans le monde du travail, donc c'est un peu triste et en même temps, hein. Voilà, c'est comme dans Home, à la fin, le personnage d'Isabelle Huppert, il s'est complètement emmuré, elle va exploser le mur, ils vont rentrer dans le monde, enfin ils marchent le long de cette autoroute, enfin ils partent, mais pour aller où? Voilà, parce que le monde que je montre n'est pas extraordinaire, hein, c'est du bruit, de la pollution, de l'agression. À la fois, voilà, ils rentrent dans le monde, donc c'est quelque chose d'optimiste, et en même temps, le monde que je montre n'est pas extraordinaire, donc c'est à double. Mais néanmoins, là, je trouve que le film est quand même, vraiment fini sur quelque chose, quand même, pour moi, de très positif, dans le sens où, pour la première fois, voilà, la preuve d'amour qu'il attendait tout le long du film, ce garçon, ce gamin, c'est quand même un gamin en manque d'amour terrible. Il faut attendre la dernière image du film pour qu'il reçoive cette preuve d'amour, quoi. Parce qu'au fond, ils en ont plein de l'amour, mais ils n'arrivent pas à se le. Ouais, encore une fois, ils n'ont pas les codes, ils trouvent pas les gestes, ils trouvent pas les mots, mais ils en ont plein à revendre de l'amour.
Bah merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et donc, on rappelle que L'Enfant d'en haut sort le 18 avril en France. Et on ne peut donc que vous encourager à aller découvrir ce très très beau film. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir écouté. À bientôt!